Alors, on accueille notre politologue Loïc. Salut.
Salut Bernard.
Alors, dernière déclaration toute chaude de Donald Trump.
Oui, sa dernière déclaration est que il va faire le discours à la nation et il va le faire à partir de la Chambre des représentants. Et que
coûte
ça que plaise
coûte
ou non.
Coûte que
ça plaise ou non aux démocrates et à Mme Pelosi, il lui a envoyé une lettre. Parce que, dit-il, ça sera envoyer un terrible message au peuple américain. Il faut leur donner confiance en ces temps difficiles.
Mais sauf que pour rentrer dans la Chambre des représentants, il faut lui ouvrir la porte. Pas lui qui est patron de la Chambre des représentants.
Pelosi lui barrer le chemin puis lui dire, Monsieur le Président, vous n'entrez pas ici. Imagines-tu ce que ça ferait dans le... Il serait ravi, lui. Parce que ce qu'il cherche, c'est de la visibilité. Et ça augmente sa visibilité. Ça augmente son image de force. Et c'est cette image de force qui fait qu'il a 41-42% des Américains qui le soutiennent en ce moment. Donc, moi, à mon avis, il va foncer là-dedans. Il vient enfin de trouver la façon de montrer que c'est lui le plus fort, etc.
Tu as raison de parler de 41-42. J'ai vu un papier ce matin, je pense, ou hier soir. Il disait que, dans le fond, ses appuis chez les Américains autour de 41-42 n'avaient pas vraiment beaucoup bougé depuis qu'il était président.
Non.
Ou en tout cas, depuis un bon bout de temps.
Depuis un bon bout de temps.
Il est en 41.
Écoute, il s'est descendu il y a un an à peu près 38, puis c'est remonté. Et c'est stable depuis des mois autour de 42.
En tout cas, il force le jeu.
Ah, il force le jeu.
Parce que tu as raison de dire, imaginez-vous la scène. Trump débarque de sa limo devant le Congrès, monte les marches vers la Chambre des représentants, puis il s'enligne vers le podium, d'où est prononcé le fameux discours sur l'État de l'Union année après année.
Pour nous, les médias, c'est une image extraordinaire. Tu sais, on commenterait ça pendant des jours, pour lui aussi. Mais je pense pas que ça se rende là. Je vois vraiment pas comment ça peut aller jusque-là.
Mais c'est parce que, d'une certaine façon, il vient de fixer une échéance pour la négociation sur le mur.
Ça, c'est vrai. C'est une échéance pour la négociation aussi qu'il fixe indirectement en disant ça.
Oui, exactement.
Tout à fait raison.
Ça se peut que ça soit très habile, hein?
Oui.
Ça se peut que ça soit très habile.
Oui, il force le jeu et puis... Écoute, on va voir ce que Pelosi va lui répondre.
Oui, c'est ça.
C'est comme un match de tennis, c'est paf!
Oui, exact. Très bien. Parlons un petit peu dans le prolongement. Washington...
L'affaire de Mme Meng, Huawei, tu sais qu'ils avaient demandé au Canada d'arrêter Mme Meng, parce que le Canada n'a pas fait ça de sa propre initiative, dans le cadre du traité d'extradition. Il faut bien le répéter, hein, parce qu'il y a des gens qui font de la propagande et qui essaient de dire « Non, c'est le Canada qui a fait ça. » Non, les États-Unis l'avaient demandé au Canada. Le Canada n'avait pas le choix. Maintenant, il faut que les États-Unis présentent un dossier en bonne et due forme d'ici le 30 janvier. Ils avaient 60 jours, les États-Unis. Ils ont 60 jours pour le faire. Et ils viennent de dire qu'ils allaient présenter ce dossier.
Donc, ils vont de l'avant avec la demande d'extradition.
Mais tu as l'ancien ministre de l'économie, M. McCallum, qui est maintenant rendu à Pékin comme ambassadeur du Canada, qui a quand même fait une sortie très intéressante. Il a dit, attention, Mme Meng, elle a des arguments très forts à faire valoir. C'est pas du tout sûr qu'on l'extrade vers les États-Unis parce qu'entre autres choses, on n'a pas reconnu l'entente, nous, entre les États-Unis et l'Iran. On fait pas partie de cette
entente. On n'applique pas les sanctions.
On les applique pas, les sanctions.
Oui, c'est ça.
Donc, ça se pourrait qu'elle soit libérée. Si elle est libérée, elle rentrera chez elle. Mais si jamais elle est, mettons, que le Canada dit, la cour de première instance dit oui, il faut vous envoyer aux États-Unis, c'est pas fini. Il y a une cour d'appel, il y a la cour suprême. Ça peut durer des années,
cette
histoire-là. Et elle est loin d'avoir perdu.
Et pendant ce temps, la controverse autour de Huawei
grossit.
Perdure, là. Il y a de plus en plus de pays qui disent on n'est pas prêt à installer leur système.
Avec une certaine raison. Écoute, Huawei se redéploie à travers le monde. Ils viennent de dire qu'ils allaient sortir d'Angleterre parce que, à cause du Brexit, mais aussi parce que l'Angleterre n'a pas son fameux système de cinquième génération. Mais tu sais, le Canada va probablement pas plus l'instaurer parce que c'est des questions de sécurité. Ça. Imagine si le gouvernement américain dit aux entreprises américaines, nous vous interdisons de faire affaire avec des entreprises qui utilisent le système 5G de Huawei. Est-ce que tu penses que les entreprises canadiennes vont être contentes? On a eu exactement la même chose après le 11 septembre 2001. Il y a plein de règles de sécurité qui venaient des États-Unis qui ont été appliquées par les entreprises canadiennes parce que ces entreprises canadiennes voulaient continuer à faire affaire avec les entreprises américaines. Donc, la même chose est en train de se produire États-Unis aient tort ou raison.
Ouais.
Mais s'ils interdisent à Huawei de déployer son réseau sur leur territoire, ils vont demander la même chose à leurs alliés qui ont des compagnies dans le système...
Les économies maintenant sont tellement intégrées.
Oui.
Alors quand tu as des pays comme la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon...
C'est ça.
Les États-Unis, en passant, là,
ils n'ont pas interdit encore.
Ben non, c'est ce que j'allais dire. Eux autres, ils n'ont pas pris encore la décision formelle.
Non.
Mais s'ils le font, ça va placer le Canada dans une situation extrêmement difficile.
Le Canada n'a pas le choix de dire on fait la même chose. Pas le choix. Et à mon avis, si les autres pays, comme la Grande-Bretagne, le Japon, s'ils ont décidé ça, c'est parce qu'ils savent que les États-Unis vont le faire. Ou ils pressentent que les États-Unis vont le faire.
Aïe, aïe, c'est pas la fin de ce dossier-là.
Non, non.
OK, c'est à suivre. Bon, pendant ce temps, le Venezuela, là, moi, ça fait une couple de fois qu'on en parle. Et soit dit en passant, mon cher Tassé,
oui.
Quand on a parlé du Mali,
oui.
Toi et moi, c'était des attentats qui ont causé la mort de quoi? C'est 15 casques bleus du Tchad. Je t'ai dit, attention, au Mali, on a des troupes canadiennes qui sont déployées. Et tu as vu que ce sont des troupes canadiennes qui ont évacué plusieurs blessés suite à l'attentat des terroristes islamistes. Enfin, on pense que c'est des terroristes islamistes. Ça a été une première vraie opération d'envergure des troupes canadiennes au Mali dans cette opération de paix. Là.
Je vais dire une chose qu'on répète, qu'on dit jamais. Mais je vais le dire parce que je trouve qu'il faut le dire. Les casques bleus, il y en a de première catégorie, puis il y en a de deuxième catégorie. Les casques bleus de première catégorie, c'est ceux qui viennent du Canada, qui viennent de France.
C'est parce qu'ils sont mieux entraînés, mieux formés.
Ils sont super bien entraînés.
Ils sont pas plus intelligents.
Non, c'est pas une question d'intelligence. Ils ont du bon équipement. Ouais. Les deuxième catégorie, c'est ceux qui viennent d'autres pays et souvent ces pays envoient des casques bleus pour faire de l'argent.
Oui, parce que ils sont payés par l'ONU. Ben
exactement. Alors c'est facile en fait d'attaquer ces casques bleus, si tu veux, de deuxième catégorie, qui sont moins bien défendus, etc. Mais c'est sûr que les casques bleus, l'ossature des casques bleus, la vraie, c'est un petit nombre de pays, puis c'est un petit nombre de démocraties.
En tout cas, tout ça pour dire que, je fais une petite parenthèse, et on ne devait pas en parler, mais je voulais quand même souligner le fait que c'est très important, ça. On s'est rendu compte. Par le nombre d'hélicoptères, notamment des forces canadiennes impliquées dans l'évacuation des soldats tchadiens, si je me rappelle bien, blessés dans cette attaque-là, on s'est rendu compte qu'on est proche de l'action, mon ami.
On est sur le terrain et on joue un rôle crucial.
Voilà. OK. Je referme cette parenthèse. Oui. Retournons au Venezuela. Mm-hmm. Parce que moi, je dis, depuis un certain temps, Trump, lui, sa réélection, il va essayer de la faire sur la queue de côte d'un conflit. Et je regarde les conflits où il aurait les meilleures chances de gagner là, militairement, là. Et le Venezuela, à mon avis...
C'est un excellent candidat, malheureusement.
Un excellent candidat. Et là, les États-Unis jouent un certain rôle
au
Venezuela.
Alors aujourd'hui, on en avait parlé, 23 janvier, il y a des manifestations partout à travers le Venezuela. Des manifestations qui ont été appelées par le Parlement vénézuélien, qui ne reconnaît pas l'élection de Maduro comme président du Venezuela. Et devine quoi? Donald Trump vient de dire... qu'il ne reconnaissait pas Maduro comme président, mais qu'il reconnaissait Juan Guaido, qui est le président du Parlement là-bas. Il vient de le reconnaître comme président par intérim du Venezuela. Alors, tu sais, ça jette de l'huile sur le feu.
Ben, c'est sûr.
Mais, tu sais, tu me dis ça, mais ce serait facile pour les États-Unis de faire très mal au Venezuela. Si tu regardes les chiffres, là, tu sais, le Venezuela exporte beaucoup de pétrole en grande partie. Qui sont les principaux clients du Venezuela? Les États-Unis, 34,8%, suivi de l'Inde à 17,2%, de la Chine à 16%, anti-néerlandaise, etc. Et les principaux fournisseurs du Venezuela, encore les États-Unis, à 24,8% de toutes les importations du Venezuela qui viennent des États-Unis, suivi loin de la Chine à 14,2%.
Alors, ils ont les moyens de faire mal au Venezuela sur le plan économique?
Très facilement.
On s'entend là-dessus?
Sans avoir à les envahir.
Voilà.
C'est ça que je voulais souligner.
J'ai bien compris. Loïc Tassé, je te remercie.
C'est un plaisir.
On se reparle demain. On s'arrête et au retour, on parle de cette grippe cette année qui touche en particulier les enfants. Je veux savoir pourquoi.